Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Escroquerie, corruption, arnaque en tout genre sont au programme chez Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Beau programme.
Pas mal.
Nous allons en effet évoquer le destin brutalement interrompu de l'homme qui fut à l'origine du plus grand scandale politico-judiciaire de l'entre-deux-guerres, le fameux Stavisky.
Et un scandale qui à l'époque a fait même vaciller la République.
Hein. Et oui, vous savez, j'ai envie de dire qu'il y a une ressemblance avec ce que nous vivons. J'entendais la publicité juste avant de prendre l'antenne. Julia, je me disais, on est finalement dans la même onde qu'en 1934. Le scandale qui a suivi la mort de Stavisky dans des conditions suspectes est à l'origine du coup de force manqué du 6 février 34. Et on peut dire que le régime finissant de la Troisième République a été éclaboussé par la chute de ce grand escroc. Alors je ne prétends pas résoudre en 20 et quelques minutes les quelques 1956 questions du dossier tel qu'il a été présenté aux assises, mais au moins je vais vous rappeler les quelques données de base d'une affaire pour le moins ténébreuse.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Comme tous les grands escrocs, il dispose d'identités multiples. Sacha Stavisky, ça c'est son vrai nom, Doisy de Monti ou Doisy des Monts, mais encore Jean Sacha et surtout Serge Alexandre, connu à Paris sous le nom de Monsieur Alexandre. Stavisky sort tout juste de l'adolescence quand il commence à se faire remarquer de la police. Un jour, il a fait imprimer des cartes de visite au nom d'un éditeur pour obtenir des billets de faveur au théâtre. Bon, c'est pas encore bien méchant ça. Une autre fois, c'est plus embêtant, il fourgue à des receleurs du Marais de l'or qu'il a volé sur des prothèses dentaires dans le cabinet de son propre père, le dentiste Emmanuel Stavisky, un homme tout à fait droit, le père, qui a émigré d'Ukraine en 1900 avec sa famille pour fuir les pogroms qui frappaient à l'époque les juifs de l'Empire russe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sacha n'a pas suivi l'exemple d'honnêteté de son père. Lui, ce serait plutôt son grand-père qui l'inspirerait. Abraham Stavisky, un homme débrouillard certes, mais pas très net. D'ailleurs, c'est avec le fameux grand-père que Sacha monte sa première véritable arnaque. L'idée est de grand-papa, mais l'exécution, disons-le, doit beaucoup au fiston. Abraham a noté que les Folies Marigny, c'était comme ça qu'on appelait ce qui est devenu aujourd'hui le théâtre Marigny, il a remarqué que les Folies Marigny n'ouvraient que l'hiver, et ça lui a donné une idée, louer ce théâtre pour la belle saison. Seulement, il fallait encore trouver les fonds nécessaires. Alors pour vous comme pour moi, ce serait un gros problème, mais ce n'en est pas un pour nos deux aigrefins, grand-père et petit-fils. Eux, ils passent une annonce dans la presse pour recruter différents concessionnaires, pour la publicité, pour la buvette, etc. Et à chacun, ils demandent un cautionnement. Et quand ils ont réuni 12 000 francs, en 1909, c'est une somme rondelette, eh bien, ils résilient le bail et ils disparaissent dans la nature. Classique. Le problème, et ça, Sacha n'y pense jamais avant d'agir, c'est que les gens grugés vont finir par porter plainte, forcément. Certes, le grand-père Abraham aura rendu l'âme avant d'être traduit en justice, mais il n'en va pas de même du petit-fils. Alors Sacha ne se démonte pas. Il va frapper à la porte d'un des avocats les plus en vue de l'époque, maître Albert Clémenceau, qui est le frère du terrible Georges, et il l'embobine bien comme il faut. Résultat, le ténor du barreau va obtenir tellement de remises et de renvois d'audience, etc., qu'au moment où l'affaire est enfin jugée, 3 ans plus tard, les esprits ont eu le temps de se calmer. Le jeune homme écope seulement de 15 jours de prison avec sursis. Or, pour Stavisky, cette première expérience de l'arnaque organisée est riche d'enseignements. Il en a tiré une grande règle qui par la suite va devenir son credo. Au regard de la justice, se dit-il, ce n'est pas la faute qui importe, ce sont les circonstances du jugement. Et ce principe admet à ses yeux 2 corollaires. Premièrement, il faut s'arranger pour faire traîner les affaires en longueur et être jugé le plus tard possible. Et puis deuxièmement, il importe que l'avocat, et si possible le prévenu lui-même et de belles relations, de bons relais qui soient placés à des postes clés. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous vois, Julia, faire de gros yeux, mais c'est ainsi, ce que je vous raconte aujourd'hui n'est pas très édifiant. Bon, je vous ai dit que je n'allais pas vous raconter tous les coups fumants de notre escroc, dont le casier judiciaire est au demeurant blanchi au titre de l'amnistie touchant les anciens combattants, parce qu'il a quand même fait, pendant la Première Guerre mondiale, quelques mois au train des équipages, et il s'est fait réformer. Passons. Avec une de ses maîtresses, la chanteuse Jeanne Darcy, le voici maintenant qui organise des salles de jeux clandestines. Et ça rapporte assez pour leur permettre d'ouvrir un dancing rue Comartin. Ça, c'est idéal, un dancing pour le blanchiment d'argent. Sacha a tendance à piquer dans la caisse, et en plus, il est infidèle. Il n'empêche qu'à l'issue de cette expérience, il a quand même amassé 800 000 francs de l'époque, ce qui n'est pas rien. À la suite de ça, il va pouvoir fonder une fausse compagnie de cinéma. Tout est faux chez lui, il faut le savoir. Mais c'est quand même une société qui lui permet d'extorquer des fonds à des actionnaires assez crédules. Il participe un moment à un trafic de drogue avec la Turquie. Il dérobe une grosse quantité de titres à bord d'un paquebot des lignes sud-américaines. Il falsifie un chèque de 600 francs pour en faire un chèque de 48 200 francs, c'est pas tout à fait le même montant. Il se fait verser tout cet argent rubis sur l'ongle par l'American Express. Bref, voyez, il fait ses petites affaires. Alors, on se demande ce que fait Hercule Poirot à la même époque. Stavisky, en attendant, ricane à chaque fois, soit par habileté, soit parce qu'il bénéficie déjà de protection. En tout cas, il sort indemne de toutes ses magouilles. Tout de même, pour cette affaire du chèque, les choses tournent mal. Son complice, qui a été trahi par Sacha, le dénonce en retour. Et voilà Stavisky, on a envie de dire, enfin derrière les barreaux. Oh, pas longtemps, parce que figurez-vous que le chèque falsifié, autant dire la seule pièce à conviction du dossier, disparaît comme par enchantement du dossier qui pourtant se trouvait sur le bureau du juge. Si notre personnage a bien compris une chose, c'est que la corruption peut venir à bout des pires problèmes. Vous savez, on dit parfois, passer les bornes, il n'y a plus de limite. Eh bien, ce dont Sacha a fait l'expérience, c'est qu'une fois dépassé les bornes de l'honnêteté, tout n'est plus qu'une question de contact, d'opportunité, de négociation, de donnant-donnant. Comme souvent, dans ce genre d'affaires, c'est le premier pas qui coûte.
Sur Europe 1 de la bande originale du film L'Arnaque.
Oui, on est dedans là. Alors, n'allez pas croire quand même que ce premier coup de semonce sur l'affaire du chèque ait freiné en quoi que ce soit les ardeurs frauduleuses de Stavisky, qui, au contraire, on dirait que ça leur a plutôt donné un coup de fouet. Le voilà qui monte maintenant une arnaque au bon du trésor. C'était même sur le point de réussir quand une des complices s'en va tout raconter à la police. Alors, perquisition, arrestation, le seul de la bande qui s'en tire. Devinez qui c'est. Sacha se met au vert quelques semaines et quand il fait sa réapparition dans la capitale, il est accompagné d'une sublime jeune femme qui est mannequin chez Chanel et se prénomme Arlette. Elle va être le grand amour de Stavisky, celle qui seule aurait peut-être eu une chance de le remettre sur le droit chemin. Ne rêvons pas, en fait c'est le contraire qui se passe. Pour les beaux yeux d'Arlette, pour son confort, pour son bonheur et pour celui des enfants qu'elle va lui donner, Sacha Stavisky passe en fait à la vitesse supérieure. Le voilà qui organise maintenant le vol de 7 millions de titres chez un agent de change. Seulement là encore, il y a pas mal de complices. Et vous savez, le problème des complices, c'est que ça parle. Sacha est arrêté, il s'évade du cabinet du juge d'instruction, on se croirait au cinéma, mais je vous assure que tout ça est réel. En attendant, la police se retourne contre le père, contre Emmanuel Stavisky, le vertueux dentiste, vous savez. Le pauvre homme propose d'indemniser les victimes de son fils avec les économies qu'il a amassées pendant toute une vie de labeur. Il est désespéré, cet Emmanuel Stavisky. Et en rentrant chez lui, il s'enferme à double tour et il se donne la mort. Là, vous vous dites, ça, c'est quand même un gros avertissement. Il va s'arrêter, Stavisky, maintenant, pensez-vous. Ce qu'il est en train de cogiter, aucun escroc avant lui n'y avait songé. Ce sera bel et bien l'arnaque du siècle. Nous sommes maintenant à l'été 1926. Sacha a 40 ans, sa vie va changer. En fait, il a été dénoncé une fois de plus. La police a pris d'assaut sa villa de Marly-le-Roi et Stavisky se retrouve écroué à la maison de la santé, à la prison de la santé. Changement de programme. Alors bien sûr, il est fidèle à sa stratégie dans ce genre de cas. Il a pris les meilleurs avocats qui s'emploient à retarder la procédure et à maintenir le client en préventive. Stavisky fait semblant d'être malade. Il feint une maladie même assez grave. Des médecins de complaisance diagnostiquent une appendicite. Les avocats poussent dans le sens d'une libération conditionnelle. Et de fait, pour Noël 1927, Stavisky va bénéficier d'une remise en liberté médicale, assortie tout de même d'une caution de 50 000 francs, mais 50 000 francs pour lui, c'est une bagatelle. Aussitôt libéré, lui qui se disait à l'article de la mort, eh bien le voilà ressuscité, il galope.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui nous propose de revenir aujourd'hui sur Europe 1, sur un escroc de légende, Sacha Stavisky.
Eh oui, Stavisky, qui est quand même resté 18 mois à l'ombre, dans le trou, comme il dit. Et il a eu tout le temps de faire retour sur lui-même et de prendre de grandes résolutions. Non, non, rassurez-vous, pas des résolutions d'honnêteté. Il s'est dit que la petite arnaque, c'était finalement beaucoup de travail, beaucoup de risques, et pour des résultats qui étaient un peu insatisfaisants. Alors, comme tous les gens qui sont devenus un peu quelqu'un dans leur domaine, eh bien Stavisky a compris qu'il fallait à présent taper plus haut. Et il n'a plus qu'une idée, se refaire un nom, une respectabilité, afin d'infiltrer au plus vite les milieux importants, ceux où l'arnaque rapporte beaucoup plus pour un minimum de danger. Première étape, le mariage. Sacha épouse sa belle Arlette le 20 janvier 1928. Deuxième étape, le nom. Fini les Sacha et Arlette Stavisky, ça c'est un nom qui a du plomb dans l'aile. Désormais, vous aurez affaire à monsieur Serge Alexandre et madame, et il fait imprimer de super gravés, devrais-je dire, de superbes cartes de visite qui font foi de ce nouveau nom. Troisième étape, l'adresse. Important l'adresse. Monsieur et madame Alexandre emménagent à l'hôtel Claridge, le grand palace des Champs-Élysées, et ils se montrent le plus possible à Deauville, à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, bref, partout où l'on rencontre des gens élégants, fortunés et puissants. Il faut dire que maintenant, Serge Alexandre a pignon sur rue, sa nouvelle maison de joaillerie fantaisie qui s'appelle Alex a le vent en poupe. Il investit aussi dans la commercialisation d'un réfrigérateur, le Fébor. Pas oublier qu'on est en 1929, le réfrigérateur, c'est la pointe du progrès. Il investit aussi dans le palais des sports de Cannes. On le voit circuler en très belle voiture, un peu ce genre de voiture qui impose son homme, vous savez, qui pose, devrais-je dire plutôt. Les robes et les fourrures de madame arrachent à la belle société des murmures d'admiration. Bref, le grand jeu fonctionne à merveille. Vous savez, les Parisiens ont cela de particulier qu'ils oublient vite et qu'ils s'entichent facilement des nouvelles têtes. Eh bien, le couple Alexandre va bientôt multiplier ses relations dans le beau monde et il voit s'ouvrir en grand les portes des salons les plus recherchés. Personne, je dis bien personne, n'aura la curiosité de se renseigner, ce qui permettrait au premier venu d'apprendre qu'en fait, monsieur Serge Alexandre s'appelle Sacha Stavisky, qu'il a été poursuivi pour escroquerie multiple et aggravée et qu'il est encore sous le coup d'une accusation des plus sérieuses. Personne ne s'en soucie. Monsieur Alexandre plastronne, il implique toutes sortes de responsables politiques dans de grandes affaires, il crée la foncière. La foncière, c'est une société vouée à la construction d'immeubles entiers entre la porte Dauphine et la chaussée de la Muette, sur un endroit où les immeubles, évidemment, sont très cotés. Bref, la mécanique infernale de ce qui va devenir l'affaire Stavisky est enclenchée et cette mécanique, plus rien ne va pouvoir l'arrêter.
Thank you.
Tiens, Ray Ventura et ses collégiens sur Europe 1, Franck.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'escroquerie du siècle. Il faut quand même que je vous explique un peu de quoi il est question. L'un des grands problèmes pour les personnes qui trafiquent des biens volés ou mal acquis, c'est le recel de ces richesses et puis leur écoulement. Quoi faire de tout ça? Eh bien, Stavisky, lui, a trouvé une solution géniale à ce petit problème. C'est le crédit municipal. C'est ce qu'on appelle à l'époque le monde piété, ou plus familièrement et par dérision, ma tante. Voilà. Eh bien, alors, vous connaissez le principe, hein, je vous rappelle en deux mots, vous avez des soucis de trésorerie et vous avez quelques objets de valeur, eh bien, vous prenez vos objets de valeur, vous les mettez en gage au monde piété qui vous prête en échange un peu d'argent immédiatement et à taux réduit. Et quand vous avez remboursé, en tout cas si vous le pouvez, eh bien, on vous rend l'objet, sinon il est vendu aux enchères pour couvrir les frais. Eh bien ça, pour Stavisky, c'est une fantastique machine à fabriquer de l'argent frais. Il apporte au monde piété des objets de provenance douteuse, plus ou moins authentiques, et il récupère la somme estimée en espèces. Bientôt, il va même faire mieux. Je vous ai dit qu'il avait une société de bijoux fantaisie, Alex, donc il peut se procurer légalement des fausses pierres, notamment des émeraudes qui sont fausses. Il les fait expertiser pour vrai par un complice du crédit municipal auquel il graisse allègrement la patte, et tout ça lui permet d'extorquer à l'institution des sommes importantes. Pour se procurer les fonds nécessaires, le crédit n'a qu'à émettre des bons de caisse auprès d'un certain nombre d'organismes financiers, à commencer par les banques. C'est si facile, du moins en apparence, qu'on se demande pourquoi personne n'y avait songé plus tôt. Alors quand même, par prudence, Sacha ne s'attaque pas directement au crédit municipal de Paris. Il préfère jouer plus discrètement avec celui d'Orléans. Naturellement, ça suppose de corrompre le directeur, en l'occurrence un certain Desbrosses. Ça, c'est tout le talent de Stavisky. Il corromprait une dame patronesse. En 3 ans, le crédit municipal d'Orléans va ainsi fournir près de 45 millions de prêts gagés. Quand je dis prêts gagés, entre guillemets, bien sûr, à notre escroc national. Évidemment, à la longue, les instances de contrôle finissent quand même par s'interroger et Sacha comprend qu'il est grand temps de faire machine arrière. C'est là qu'il se montre une fois de plus assez génial. À la veille de ce qui pourrait être le scandale du crédit municipal d'Orléans, au lieu de se sauver avec le magot à l'autre bout du monde et de se griller pour très longtemps, Stavisky fait mieux. Il puise sur la trésorerie de sa société immobilière pour éteindre d'un seul coup sa dette à Orléans. Et voilà qui fait taire toutes les mauvaises langues. Seulement, bien sûr, tandis qu'il rembourse d'un côté, il est déjà en train de monter par ailleurs un coup similaire, mais encore plus fumant. Cette fois, c'est à Bayonne qu'il va sévir. Pourquoi à Bayonne? Eh bien, parce qu'il s'est fait là-bas un ami très cher du député maire local, Monsieur Garra, qu'on appelle Garat dans la région. Coup de chance, il n'y avait pas du tout de crédit municipal à Bayonne. Faites confiance à Stavisky pour en créer un dardard. Avec la complicité plus ou moins naïve de Monsieur Garat et de toutes sortes de responsables, il arrose largement Monsieur Alexandre, Sacha met donc sur pied un monde piété dont il ne peut confier la responsabilité à Desbrosses, quand même c'est un petit peu fait remarquer à Orléans, mais dont Desbrosses va quand même être la cheville ouvrière par homme de paille interposé. Cet homme de paille, c'est un commis de Stavisky dénommé Tissier. Et cette fois, plus question de se contenter de menue monnaie. Les bons d'emprunt sont émis à une vitesse et dans des proportions incroyables. 40 millions en 1931, 100 millions en 1932, ça représente entre 50 et 60 millions de nos euros d'aujourd'hui. Monsieur Alexandre joue comme jamais de ses relations pour donner toute respectabilité à l'affaire. Le gouverneur de la Banque de France, le ministre du Commerce, tout ce beau monde cautionne le crédit municipal de Bayonne. Une lettre d'encouragement aux investisseurs locaux est même signée de la main de Dallimier, qui est ministre du Travail. Cette fois, le gouvernement, on peut le dire, est partie prenante. Or, je vous parle de cette arnaque, mais il ne faudrait pas croire que Stavisky s'en tienne à ça. Ses prises de participation dans toutes sortes d'affaires plus ou moins officielles, plus ou moins nettes, se multiplient. Les personnalités les plus irréprochables ont chaque jour recours à sa générosité pour les dépanner dans toutes sortes de circonstances. Et dans cette période ambiguë de sortie des années folles, au cœur d'une crise qui n'affecte la France que de manière indirecte, Stavisky voit se surmultiplier les liens occultes avec tout ce que l'élite compte d'hommes corrompus ou faibles. Bref, cette fois, on peut dire que la République est en cause et bientôt le régime sera mouillé jusqu'au cou. Or, à la veille de Noël 1933, La France entière apprend l'arrestation à Bayonne d'un certain Tissier, pris en flagrant délit d'émission frauduleuse de bons de caisse à l'entête du crédit municipal. Ah, cette fois, ça sent vraiment le roussi. Et on peut désormais parler d'une affaire Stavisky. Après des années de pratiques frauduleuses, impunies, le pot aux roses vient quand même d'être découvert. Encore quelques heures, et Monsieur Alexandre, alias Sacha Stavisky, sera l'homme le plus recherché d'Europe. Il est d'ores et déjà un homme en sursis.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec un récit qui nous plonge cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'affaire Stavisky, Franck.
Donc à la veille de Noël 1934, le scandale du crédit municipal de Bayonne a explosé. Cette fois, il y a une affaire Stavisky et Sacha décide de prendre la fuite. Avant de partir, on est donc le 24 décembre 1933, il a quand même besoin d'argent. Alors il a de côté des pierres précieuses, il en a pour une très grosse somme, sauf qu'on est la veille de Noël. Ça va être très difficile de trouver des receleurs, des gens à qui écouler, à qui, des bijoutiers qui puissent lui avancer de l'argent sur ses pierres. Il récupère en tout 80 000 francs, dont il va laisser 40 000 à sa femme. Et lui, le voilà qui part de nuit en voiture, accompagné d'un ami qui s'appelle Pigalio. Ils descendent vers le sud-est de la France. Quand ils arrivent à Saint-Gervais, il faut imaginer en plus une France qui est sous la neige, comme, un peu comme aujourd'hui, là, en ce mois de décembre 1933. Eh bien, quand ils arrivent à Saint-Gervais, ils se rendent compte que l'affaire est en train de prendre une tournure vraiment plus qu'inquiétante. À ce moment-là, Stavisky décide de prendre le train pour Servoz. Ils vont s'installer provisoirement là-bas. Et puis, Stavisky convoque un autre ami, Voix, qui arrive. On est là le 27 décembre. Il arrive accompagné de sa maîtresse. En attendant, on renvoie Pigalio dans la capitale le 28 pour essayer de se renseigner, pour obtenir aussi du bijoutier le solde du prix des pierreries. Et le messager revient le 30 décembre dans les Alpes et il ne revient qu'avec très peu d'argent. Il a réussi à tirer 6000 francs de cette histoire. C'est pas énorme. Le 31 décembre, tout le monde se transporte à Chamonix où Stavisky a loué la villa, le Vieux Logis. Et c'est là que tout va se jouer. C'est là que va se nouer ce drame, cette fin si brutale, si spectaculaire de Stavisky, à partir de quoi va exploser un scandale national. Un scandale qui met en cause l'ensemble des élites de l'époque et qui va faire vaciller la Troisième République sur ses bases. Pierre Cornu-Gentil est avec nous. Merci beaucoup, maître, d'être passé nous voir. Vous connaissez très bien cette affaire Stavisky et l'affaire Prince, qui est une affaire directement liée. Nous allons y venir dans un instant. Donc, j'ai laissé notre Sacha Stavisky aux abois, dans ce chalet de montagne, sous la neige. Il se laisse aller à ce moment-là. Lui qui portait si beau, lui qui a toujours tout fait sur le cran, si je puis dire, et sur l'allure, le voilà qui se dégonfle comme une baudruche en ce tout début d'année 1934.
Oui, et l'explication, c'est probablement le fait que, comme vous venez de le souligner, il ne lui reste que très peu d'argent. Il n'a pas été préparé, il n'a pas préparé sa fuite, oui. Curieusement.
Il a été surpris par ce qui s'est passé là.
Donc, il lui reste très peu d'argent et il a perdu depuis longtemps l'habitude de vivre avec peu d'argent. Et puis, il comprend qu'il est abandonné de tout le monde, qu'il a abandonné de ses complices, bien évidemment, mais surtout qu'il n'a pas les appuis politiques qu'il aurait pu espérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je suis plutôt partisan du suicide que de l'assassinat, même si à l'époque tout le monde a cru à l'assassinat, puisque vous ne l'avez pas encore dit, mais effectivement...
Oui, on va y venir. Alors ces appuis politiques, il faut savoir que généralement ils sont très efficaces quand tout marche bien, ils deviennent beaucoup moins efficaces à rebours, quand tout se met à aller mal. Là d'un seul coup, il est abandonné de toutes parts, Stavisky. Et il commence à se dire que quelqu'un de pas très net a loué un chalet... On est tout près donc de Chamonix hein, et on envoie un inspecteur de Paris qui
Absolument.
Débarque.
Puisque, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il est recherché depuis quelques jours. Et c'est vrai que l'inspecteur a des informations suffisantes
Tarpentier, donc, hein.
pour le localiser. Il le localise, il cerne la villa en question, il comprend qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui se cache dans une pièce.
Il réussit à rencontrer le propriétaire qui a loué le chalet, et donc les voilà qui arrivent à un moment où Stavisky en plus se trouve tout seul.
Exactement.
Stavisky s'est enfermé dans une des pièces du haut qui est une chambre, mais dont il a fait une sorte de bureau, ou on pourrait presque dire de quartier général. Il refuse d'en sortir, on cerne la villa, il y a là une... ça prend une dimension très dramatique, hein, bien
très
entendu.
Dramatique, effectivement, parce que tout le monde est sur les dents, y compris la hiérarchie à Paris, et il rappelle sa hiérarchie pour savoir ce qu'il doit faire, il dit « je pense que c'est Stavisky, j'en suis pas sûr », et son supérieur hiérarchique, un des directeurs de la police nationale, lui dit, ou de la Sûreté Générale plus exactement, lui dit « enfoncez la porte et arrêtez-le ». Il enfonce la porte, mais à peine avait eu le temps de donner les premiers coups, qu'un coup de feu retentit. En tout cas, c'est la version que donnent les policiers.
Oui, voilà,
j'ai
oui.
tendance, moi, à la croire. Et il découvre le corps de Stavisky avec une balle dans la tempe. Et voilà. Et alors, immédiatement, effectivement...
Stavisky va mettre plusieurs heures à mourir. Il mourra
oui, il
dans la nuit,
mourir,
au petit
il est dans
matin.
Le coma. Il est dans le coma. Un médecin vient, constate qu'il est dans le coma. Il met plusieurs heures à mourir. Et bien sûr, très rapidement, la France entière est informée de ce qui vient de se passer. Et la France entière est convaincue qu'on l'a assassiné. Parce que compte tenu de ce qui transparaît déjà des compromissions politiques et des liens qu'il avait avec certains hommes politiques, tout le monde pense qu'on l'a assassiné pour le faire taire.
Mais ce qu'il faut dire objectivement, c'est qu'il y a eu quand même de longs délais difficilement explicables entre le moment où les policiers arrivent au chalet et le moment où le coup de feu retentit.
Absolument.
On a quand même,
oui, tout à fait. C'est au moment où le coup de feu ne retentit. Il est quasiment simultané à l'entrée des policiers dans la pièce où ils se trouvent. Ce qui accrédite, bien sûr, l'hypothèse de l'assassinat policier.
Vous pensez qu'il s'est suicidé?
Oui, alors pourquoi? D'abord parce que les historiens plus férus que moi qui se sont penchés sur la question, et notamment Paul Jankowski, un historien américain qui a écrit une excellente biographie de Stavisky, est convaincu lui aussi que c'est, en tout cas, est plutôt, penche plutôt pour la thèse du suicide, parce que la vérité, généralement dans ces cas-là, on ne la connaît jamais. Mais il penche pour la thèse du suicide, et pour quelle raison? Et je partage son point de vue. D'abord, les policiers se sont expliqués de manière assez convaincante. Deuxièmement, et ça c'est très important en revanche, on retrouve une lettre auprès de son corps, et c'est une lettre qu'il destine à sa femme Erlette, dont vous avez rappelé qu'il était très amoureux. Et cette lettre, si elle ne parle pas de suicide, elle est néanmoins très claire, c'est une lettre d'adieu qui montre qu'il est désespéré, qu'il ne la reverra jamais, et on ne peut difficilement l'interpréter autrement que comme une lettre de quelqu'un qui va mettre fin à ses jours. Et puis enfin et surtout, je pense que quelles qu'aient été les compromissions politiques, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure.
Mais même longuement,
il
oui.
n'a pas. Il s'avère que, contrairement à ce qu'on a pu croire à l'époque, il n'a pas bénéficié d'appuis gouvernementaux. C'est-à-dire que ça ne s'est pas joué. Les appuis et les complicités dont il a bénéficié dans les milieux politiques ne se situaient pas au niveau gouvernemental. Autrement dit, le gouvernement de l'époque, le gouvernement Chautemps, qui a été terriblement soupçonné, on en reparlera et on dira pourquoi, n'avait pas de raison de le faire taire, parce que la vérité est que Stavisky n'avait pas été en mesure et n'était pas en mesure de faire chanter les ministres. Il avait compromis l'un ou deux, comme Dalimier, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ben, Dalimier démissionnera et puis on aura restera là. Voilà. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons de son suicide. Il avait des complices, mais qui étaient peut-être à un trop bas niveau pour qu'il puisse espérer obtenir, par du chantage ou par des pressions, ou par des révélations, quelque chose de ce gouvernement qui, en réalité, n'avait pas donc intérêt à le supprimer, si tant est que ce fut le motif de son assassinat.
Finalement, Sacha Stavisky était allé très loin dans les arnaques. Il avait réussi à récupérer énormément d'argent.
On a chiffré à 259 millions, les experts qui ont été désignés ensuite par la justice ont chiffré à 259 millions de francs le montant des détournements divers qu'il avait accomplis, dont 200 millions au crédit par l'intermédiaire du Crédit Municipal de Bayonne, c'est-à-dire à peu près 150 millions
d'euros. Millions d'euros, hein, c'est ça, oui, exactement. C'est toujours difficile de faire des équivalences, mais enfin sur le 20e siècle, c'est assez faisable
voilà,
quand même.
On arrive à peu près à cette proportion.
Donc 150 millions d'euros détournés, c'est quand même beaucoup dans le contexte de l'époque.
Surtout que c'est sur du vent, c'est à partir de rien. à la Madoff, c'est-à-dire que c'est sur une illusion permanente et c'est sur du vent.
On peut comparer avec Madoff ?
Tout à fait. Les procédés des grands escrocs, et là on est en présence d'un grand escroc et Madoff probablement aussi, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est la même recette et qui curieusement fonctionne toujours.
Ça consiste en quoi ? Oui, voilà.
D'abord, à profiter pas tant de la naïveté des victimes que de leur cupidité. Parce qu'on s'aperçoit que Stavisky et Madoff ne se sont pas adressés à la veuve de Carpentras. C'est facile de gruger la veuve de Carpentras en lui promettant un taux de 6 ou 7% de rendement, alors qu'on sait qu'à l'époque, au-delà de 3-4%, c'était inconcevable. Et pourtant, comme Madoff, Stavisky a placé les faux bons de caisse du Crédit Municipal de Bayonne auprès des compagnies d'assurance et des banques, c'est-à-dire auprès de professionnels qui auraient dû être immédiatement alertés. Non, la perspective de gagner 7% d'intérêt, alors qu'ils avaient réfléchi du minute, c'était économiquement pratiquement impossible, a suffi.
Donc ah, c'est la première humaine.
Technique. La deuxième technique de ces grands escrocs, c'est de s'entourer de personnalités honorables dans les conseils d'administration ou pour Madoff, c'était les intermédiaires, les rabatteurs d'argent. Ils choisissent parfois, ils ont des complices conscients, évidemment, de l'arnaque. Mais ce qui est le mieux, c'est de s'adresser à des gens dont on connaît plutôt les faiblesses, dont on truffe les conseils d'administration. C'est ce que faisait Stavisky. Il y avait le préfet de la compagnie foncière dont vous avez parlé, était présidé par un ancien préfet de police. Mm-hmm. Il y avait là un général à la retraite, un inspecteur des finances, un conseiller d'État. Toutes sortes de gens qui ne devaient pas être malhonnêtes, mais qui, pour quelques jetons de présence assez confortables, acceptaient tout simplement de siéger dans ce conseil, de cautionner des opérations dont ils ne savaient rien et qui se sont révélés par la suite des escroqueries. Ça, c'est la deuxième technique des escrocs, c'est d'avoir autour d'eux des gens honorables qui inspirent confiance.
Madoff,
c'était la technique de Stavisky.
Madoff, pardon, décidément. Stavisky, de ce point de vue, n'avait rien inventé, disons-le. Tout ça voilà, se faisait déjà tout à fait au 19e siècle.
Ils ont tous fait comme ça. Oui. Si vous reprenez l'histoire de la 5e République et de quelques scandales, c'est toujours également
ça
avec
toujours
la caution
façon.
Involontaire ou presque inconsciente de personnages honorables.
Parce que les ressorts humains, eux, sont toujours les mêmes. Alors, quelles ont été les implications de cette affaire et de la mort, donc du suicide, nous dites-vous, de Stavisky, sur un plan judiciaire d'abord et sur un plan politique ensuite, c'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Trotsky à Saint-Palais, c'est un extrait de la bande originale du film Stavisky. C'est un film d'Alain René avec Jean-Paul Belmondo qui est sorti en 1974.
Oui, bien sûr, oui, un film alors qui était beaucoup plus dubitatif que vous sur le fin mot de l'histoire. Mais je pense effectivement que ce suicide de Stavisky est plus que probable, qu'il s'explique par toute la logique dans laquelle il s'était lui-même enfermé. Alors vient se greffer très vite, Pierre Cornu-Gentil, je rappelle que vous êtes avocat, historien, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont celui que j'ai là entre les mains, Un scandale d'État, l'affaire Prince, c'est publié chez Perrin. C'est qu'une affaire, j'allais dire subsidiaire, l'affaire du conseiller Prince, la mort du conseiller Prince, vient se greffer très vite sur le scandale de la mort de Stavisky.
Oui, et d'une certaine manière, l'affaire Prince, qui est aujourd'hui oubliée, a fait encore plus de bruit, peut-être, à l'époque, et le scandale a été encore plus retentissant que le scandale Stavisky lui-même, même si les deux scandales sont totalement mêlés. Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier-février 1934? Vous l'avez rappelé au début de cette émission, crise économique extrêmement grave, et ça ressemble un petit peu à ce que nous vivons aujourd'hui.
C'est le même climat. Non seulement économique, mais politique.
Impuissance des gouvernements, il y a, s'ajoute l'instabilité ministérielle, mais en tout cas, impuissance des gouvernements face à une crise retentissante et qui a des conséquences lourdes sur le plan social. Et au pouvoir, depuis quelques années, les radicaux qui incarnent donc cette impuissance à résoudre les problèmes et la crise économique, et plus spécialement, en janvier 1934, Camille Chautemps, grand dignitaire franc-maçon.
Tous les grands dignitaires de l'époque sont
franc-maçons. Sont tous franc-maçons, absolument. Et donc, qui est une personnalité importante du Parti radical. C'est lui qui dirige le gouvernement à ce moment-là. Et tout au long du mois de janvier, la population apprend, donc on a eu la mort de Stavisky, dont on est persuadé que c'est un assassinat le 8 janvier. Quelques jours après, on apprend que Dallimier, ministre du Travail, quelques années auparavant, a été compromis dans une des escroqueries de Stavisky. Probablement, malgré lui, il s'est fait piéger, mais il doit démissionner. Ça conforte l'idée que ce gouvernement est un gouvernement de corrompus. Et puis, un autre ministre est mis en cause dans une autre affaire. Et puis, surtout, tout au long de ce mois de janvier, on apprend que Stavisky a bénéficié d'une incroyable complaisance de la justice. Il était sous le coup de poursuite depuis 1929 dans l'affaire d'escroquerie au préjudice des agents de change que vous avez évoqué tout à l'heure, les agents de change Labbé et Lafourcade. Il aurait dû être jugé en 1929 et il a réussi, par divers procédés dont tous sont tout parfaitement légaux, à faire renvoyer 19 fois son affaire en 4 ans, de sorte que jamais il n'est passé en jugement pour cette escroquerie importante. Et si jamais il avait dû passer en jugement, tout s'écroulait, bien évidemment. Il ne pouvait pas commettre les escroqueries que vous avez tout à l'heure racontées. Or, la population française découvre qu'on a laissé faire, le parquet et le tribunal de Paris a laissé cette affaire renvoyer indéfiniment. On apprend aussi qu'en 1930, la brigade financière avait adressé au parquet de Paris, procureur de la République et chef de la section financière, et le chef de la section financière s'appelait Albert Prince, deux rapports disant « Attention, Serge Alexandre, nous le connaissons, c'est en fait un escroc patenté, c'est Stavisky et vous devriez enquêter sur ces affaires parce qu'il mériterait probablement d'être arrêté. » Et le parquet, apprend-on, n'a rien fait ou a laissé traîner, n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Et on apprend enfin, et là on approche du 6 février 1934, on apprend enfin que le chef du parquet de Paris, c'est le Pressard, procureur de la République, et qu'il est le beau-frère de Camille Chautan, président du Conseil.
Donc, beaucoup de coïncidences, voilà, d'accointances et donc de suspicions autour de
ça. Et donc, ça débouche sur les abat les voleurs, les différentes manifestations qui vont déboucher sur le 6 février 1934.
Alors, un populisme récupéré en quelque sorte, enfin une colère populaire, devrais-je dire, récupérée par les ligues nationalistes.
Les ligues, l'extrême droite, le Parti communiste aussi, bien sûr, et de manière générale, l'antiparlementarisme.
Il faut dire qu'on est dans un régime, celui de la Troisième République, qui ne fonctionne que par le Parlement, et que être contre le régime à l'époque, c'est être d'abord contre le Parlement.
Exactement.
Et donc, c'est la grande différence avec ce que nous connaissons.
D'autant qu'en réalité, alors, les complices avérés de Stavisky sont des parlementaires. Car s'il n'y a pas de ministre compromis consciemment,
il y a en revanche
Gara, dont vous avez parlé tout à l'heure, le député de Bayonne. Il y a Bonnor, qui est député de Paris, qui est mouillé jusqu'au cou. Et dans ce mois de janvier 1934, ils sont tous les deux jetés en prison par le juge de Bayonne qui enquête sur l'affaire Stavisky. Donc voilà, une atmosphère de scandale. Donc Stavisky, c'est un peu le déclencheur du 6 février. C'est pas la cause profonde. La cause profonde, c'est la crise économique et l'instabilité politique et l'impuissance politique, mais le détonateur, c'est l'affaire Stavisky.
J'ai eu l'occasion plusieurs reprises, ici, à ce même micro, de raconter le 6 février 1934. Rappelons en quelques mots qu'il s'agit d'une sorte d'insurrection à Paris, menée par l'ensemble des ligues, qui sont des ligues nationalistes ou même d'extrême droite, et qui vont marcher sur le Parlement et essayer de renverser le régime. Alors, la police fait son travail, va empêcher finalement au dernier moment. Est-ce que c'est d'ailleurs la police qui empêche le succès de l'opération, ou est-ce que ce sont les ligues elles-mêmes qui n'ont pas tout à fait la volonté d'aller jusqu'au bout? Toujours est-il que c'est un échec, que le régime de la Troisième République se maintient à grand mal, à grand peine, mais se maintient néanmoins. C'est une crise politique majeure, quoi
absolument,
qu'il en soit.
Absolument. Et alors qu'il débouche sur l'affaire Prince, on peut en deux mots.
Alors cette affaire Prince, on est là, le coup d'État manqué, c'est le 6 février 1934, et l'affaire Prince, c'est même pas 15 jours plus
c'est
tard.
C'est 15 jours après. C'est-à-dire que il y a donc cette révélation que le parquet n'a pas tenu compte des rapports de la brigade financière mettant en cause le comportement de Stavisky, et les destinataires de ces rapports, c'était Pressard, le procureur de la République, beau-frère de Chautan, et Albert Prince, chef de la section financière. Et tous les deux, une enquête administrative est ordonnée, et tous les deux se renvoient la balle. Prince dit, mais moi les rapports, je les ai transmis à Pressard, il m'a dit, mettez-les dans votre tiroir. Et Pressard dit, mais comment, il ne m'en a jamais parlé. Là-dessus, le président de la Cour de cassation, qui est à la tête de la commission d'enquête, dit à Prince, vous allez me dire ce que vous avez à me dire le 20 février, je vous attends dans mon bureau.
Donc là, ça va être le moment, la minute de vérité, voilà. Et au moment où...
Dans la nuit du 19 au 20 février, on découvre le corps déchiqueté d'Albert Prince sur la voie ferrée, près de Dijon, sur la voie ferrée Dijon-Paris, de sorte qu'on ne saura jamais ce qu'il avait à dire, ce qui renforce
encore.
Et
là, ce n'est pas un suicide. Hein, là, hein,
ah, moi, je suis convaincu que c'est un suicide, c'est ce que j'explique dans mon livre. Je suis convaincu que c'est un suicide, mais personne n'y croit à l'époque. Et si j'ai pu, je pense, l'établir, c'est grâce à la directrice de l'Institut médico-légal d'aujourd'hui, Madame le professeur Lecomte, qui m'a aidé à démontrer que les rapports d'expertise qui concluaient à l'assassinat, en réalité, se fondait sur beaucoup d'éléments qui, scientifiquement aujourd'hui, doivent être considérés comme faux. Mais le scandale a rebondi de manière phénoménale, car on se dit, ce gouvernement n'hésite pas à assassiner Stavisky, mais voilà maintenant qu'il assassine des magistrats qui sont susceptibles de révéler ses turpitudes.
Donc ça aura été,
il y a eu, sur le plan médiatique, effectivement, ça a été quelque chose qui a fait un scandale considérable pendant toute l'année 1934.
Cette affaire Stavisky, finalement, elle est à la jonction de deux grands types de phénomènes. Il y a d'une part toute une série d'arnaques et on est vraiment dans la pourriture de tout un système, en quelque sorte.
Tout à fait.
Mais elle est aussi le révélateur d'une crise sociale et politique majeure. Elle est dépassée par les événements, en quelque sorte, et elle devient le révélateur de la fin d'un régime, cette Troisième République qui ne tenait quasiment plus sur ses pieds.
Moi, j'ai tendance à penser que des escrocs comme Stavisky, il y en a à peu près à toutes les époques. Des hommes politiques corrompus, il y en a heureusement une minorité, mais il y en a probablement à peu près la même proportion à toutes les époques. Mais évidemment, c'est plus du tout acceptable et ça prend des proportions très graves lorsque ça se produit, ça se révèle dans un contexte de grave crise économique, bien évidemment. C'est ça à quoi on a assisté en 1934 et c'est ce à quoi peut-être on pourrait assister également dans la période que nous connaissons aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre Cornu-Gentil. Un scandale d'État, l'affaire Prince, c'était publié il y a quelques années, maintenant 2 ans, oui, chez Perrin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette affaire Stavisky extraordinaire. Demain, nous resterons exactement dans la même époque pour parler, alors là non plus d'un escroc, mais d'un truand, cette fois d'un gangster terrible. Nous parlerons d'Al Capone.
Al Capone.
On traversera l'Atlantique, mais on restera dans la même époque. Et puis, je vous signale, parce que certains ont été surpris que je ne parle pas des 60 ans de règne de la reine Elisabeth aujourd'hui. Nous parlerons de la reine Elisabeth à travers une émission que nous faisons jeudi sur l'un de ses plus importants premiers ministres, puisque nous parlerons jeudi de Margaret Thatcher.